de Christelle Rebière. Bonjour, bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin de drôles d'oiseaux. C'est le week-end annuel de comptage des chardonnerets élégants et autres mésanges afin de mieux mesurer le niveau de notre biodiversité. On y revient après les autres titres, Christelle.
10 000 euros pour chaque enfant né dans la France rurale. Avec cette promesse, Éric Zemmour est en campagne à la campagne. Encore une fugue d'un hôpital psychiatrique à Toulouse, la quatrième en 10 jours. Le Covid à l'école, 2 mois de répit pour les élèves de terminale, les épreuves de spécialité sont repoussées à la mi-mai. En Angleterre, pour mieux sécher les cours, vous l'entendrez, les adolescents trafiquent les autotests. Dans ce journal, un steak à l'heure du petit déjeuner, mais vegan. Le marché est tel qu'on en trouve parfois au rayon boucherie des grandes surfaces. Ils avaient faim, mais ça n'a pas suffi. L'équipe de France de handball a été battue en demi-finale de l'Euro par la Suède, 34 à 33. On y reviendra dans le journal des sports de Laetitia Bernard.
Et dans 20 minutes, notre invité, la ministre des Armées, Florence Parly, la Russie, le Sahel. On verra comment ces deux dossiers d'actualité pourraient bien redessiner la carte de nos troupes françaises envoyées à l'étranger.
France Inter.
Et pour commencer, connaissez-vous la perruche à collier, l'accenteur mouchet, le rouge-queue-noir ? Ce sont les oiseaux de nos jardins et de nos forêts. Certains sont en voie de disparition, mais pour le savoir, eh bien, il faut les répertorier. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, participer ce week-end au comptage des oiseaux de jardin. Il suffit de prendre un bon poste d'observation durant 1 heure. Partons en Bretagne, au vallon du Stangalard, à Brest, avec Nicolas Olivier.
Tiens, là, il y a un accenteur mouchet qui chante. Là, il y a un grimpereau qui crie.
Jean-Noël Ballot est ornithologue à Bretagne Vivante. Les oiseaux, c'est surtout au son qu'il les reconnaît.
On peut très bien observer des oiseaux qu'avec ses oreilles. Les ornithologues confirmés voient 10 fois plus d'oiseaux avec les oreilles qu'avec les yeux.
Il ne se déplace jamais sans ses jumelles et son petit carnet dans lequel il note scrupuleusement chaque volatile identifié.
Donc ça, ce sont des observations qu'on a fait pendant la balade. Là. On a déjà 2 espèces de pics, le pic épêche, le pic vert. On a de la citelle torche-peau. Un grimpereau, des geais. Rien qu'ici, on peut déjà, lors d'une balade comme ça, faire 60 d'espèces.
C'est ce recueil de données que l'association Bretagne Vivante organise à grande échelle un week-end par an.
Ça permet de voir les tendances d'évolution de l'avifaune. On peut par exemple s'apercevoir que des espèces comme le verdier, il y a quelques années, ont pratiquement disparu. Donc ça permet de dégager des tendances. Il faut regarder ça sur le long terme.
Pour participer, il suffit de suivre le protocole, explique le botaniste Luc Guillard.
On doit consacrer dans le week-end 1 heure à l'observation des oiseaux. On note l'effectif maximum que l'on voit pour une espèce.
Dans le cadre de l'opération, 160 000 oiseaux avaient été observés l'an dernier, 20 000 de moins qu'en 2019.
Nicolas Olivier de France Bleu Brésisel, l'an dernier 540 000 oiseaux avaient été aperçus dans notre pays. Le moineau et la mésange restent les rois de nos jardins.
La politique avec l'extrême droite en plein paradoxe.
Oui, Éric Zemmour stagne dans les sondages mais il engrange les ralliements. Marion Maréchal disait hier penchée pour le polémiste qui prône comme elle l'union des droites. Marine Le Pen, elle, mieux placée dans les sondages, encaisse défection sur défection. Elle sera aujourd'hui à Madrid avec ses alliés européens d'extrême droite pour peaufiner sa stature internationale. Pour attirer de nouveaux électeurs, Éric Zemmour creuse son sillon désormais aussi dans le monde rural. Il était hier soir en meeting dans le Loir-et-Cher et il a avancé une mesure pour favoriser la natalité dans les campagnes, Élodie Forêt.
Dans la salle municipale de Chaumont-sur-Tarronne, 1000 habitants, Éric Zemmour avait une mesure à vendre, une promesse à faire.
Dès l'été 2022, pour chaque nouvel enfant né dans une famille de la France rurale, nous mettrons en place une bourse de naissance de 10 000 euros.
10 000 euros donc pour chaque enfant né dans la France rurale, sans en définir exactement les contours. Le tout financé par la suppression de l'immigration et de l'assistanat, explique le candidat. L'argument fait mouche auprès d'Adrien et Élise, jeune couple qui attend des jumeaux.
Ça serait une aide providentielle, oui. En gros, ils supprimeraient les aides aux étrangers et...
Nous les Français.
Voilà, ce qui n'est pas illogique.
C'est peut-être jouable.
Andy, lui aussi, habite un petit village près d'Orléans. Il a apprécié ce discours entièrement tourné vers la ruralité, même s'il est un peu sceptique sur cette bourse de naissance.
Ça peut paraître très utopique. Bon voilà, est-ce qu'il va falloir juste naître dans la campagne ? Alors forcément, tout le monde déménage dans la campagne et puis 6 mois après, ils vont tous repartir. Bon après, voilà, il faut peut-être affiner, peut-être il y aura des choses à faire. Il a le mérite de proposer, c'est courageux d'oser.
Andy, qui à la dernière élection présidentielle a voté Nicolas Dupont-Aignan, à la fin de ce meeting, toujours un peu hésitant, rêvant à une grande alliance de Zemmour à Debout la France.
Élodie Forêt. À gauche, Yannick Jadot présente aujourd'hui à Lyon son programme pour une République écologique. Il veut par exemple investir 10 milliards d'euros par an pour la rénovation thermique, interdire la vente de voitures neuves à énergie fossile en 2030 ou encore mettre à l'arrêt au moins 10 réacteurs nucléaires d'ici 2035. La lutte contre les déserts médicaux, c'est aussi l'un des grands thèmes de cette élection présidentielle. La faculté d'Orléans vient de signer un accord inédit avec la faculté de médecine de Zagreb en Croatie. Dès le mois de septembre, 50 étudiants pourront accéder à ce cursus aux grandes dames de la Conférence nationale des doyens de médecine. Didier Samuel est le doyen de la faculté de médecine de Paris-Saclay.
En gros, c'est une opération venant de politiques qui souhaitent implanter une faculté de médecine sur leur territoire. Ce qui m'étonne, c'est que c'est fait sans concertation avec les autorités universitaires et le ministère. C'est une faculté privée. Ça pose un problème, en effet, de différence de traitement des étudiants, puisqu'il y a un coût, je crois, de plus de 10 000 euros par an qui est annoncé. Le deuxième point qui me paraît encore plus problématique, c'est la diplomation. C'est une université de Zagreb qui serait en charge de la formation. Donc, est-ce que les étudiants qui vont être formés auront un diplôme de médecine français ou est-ce qu'ils auront un diplôme de médecine croate dont il faudra qu'ils fassent reconnaître l'équivalence? Comment on va se faire pendant l'internat? Et d'autre part, le diplôme, est-ce qu'il sera reconnu aussi par les autorités? Là, il y a vraiment une problématique majeure et donc il est absolument essentiel que les étudiants soient protégés.
Le professeur Didier Samuel interrogé par Véronique Julia. Quant au parrainage d'élus, la préfecture du Var a retoqué la consultation lancée par le maire de Sainte-Anastasie-sur-Issole dans le Var. Ce dernier voulait évoquer la question avec les habitants pour savoir à qui il devait accorder son parrainage. Démarche jugée illégale parce que ça doit être un acte volontaire et personnel de l'élu, rappelle la préfecture. Encore une fugue d'un hôpital psychiatrique à Toulouse. C'est le quatrième en 10 jours. Et pour la première fois, il s'agit d'un homme qui séjournait à l'hôpital. Pour la troisième fois, pardon, il s'agit d'un homme qui séjournait à l'hôpital Gérard Marchand. Il a échappé à la surveillance du personnel, Axel Labbé.
Le patient a fugué hier après-midi. Les forces de l'ordre sont toujours mobilisées pour le retrouver. C'est ce qu'indique l'Agence régionale de santé dans un communiqué publié dans la nuit. Cette nouvelle fugue s'est produite alors que l'ARS était en train de mettre en place des mesures de sécurité face à toutes ces évasions. À l'hôpital Marchand, les unités seront désormais fermées, les gardes et les astreintes renforcées. L'hôpital Marchand qui est en pleine tourmente. En plus de cette nouvelle évasion, la direction devra s'expliquer après la plainte déposée par la victime de Jérémy Rimbaud qui a fugué de Marchand il y a 10 jours. Il s'en était pris en pleine rue à une femme de 72 ans, la frappant à coups de bâton. Elle est gravement blessée au bras. Une enquête est en cours pour tentative de meurtre. Enfin, l'hôpital est également sous le coup d'une mission d'inspection et d'une enquête administrative ordonnée par l'Agence régionale de santé.
Axel Labbé. Joe Biden maintient la pression sur Moscou. Le président américain annonce l'envoi prochain d'un nombre limité de soldats en Europe de l'Est. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux de ne pas semer la panique autour du risque d'une invasion de son pays. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu longuement hier avec Vladimir Poutine, cherche la désescalade.
2 mois de répit pour les élèves de terminale. Le Covid bouscule une fois de plus le calendrier du bac.
Finalement, les épreuves de spécialité ont été reportées de mi-mars à mi-mai, les lycéens étaient trop en retard sur les programmes. Et aujourd'hui, ils sont partagés, direction Rouen, devant le lycée Camille Saint-Saëns avec Manon Lombard-Brunel.
Moi, je suis contente déjà aussi pour le grand oral, c'est-à-dire qu'on aura plus de choses à réviser. Les profs, ils ne seront pas centrés seulement pour notre grand oral, mais aussi pour nos épreuves de spé.
En fait, on va devoir tout réviser d'un coup, alors qu'on aurait été tranquille en fait si on les avait fait en mars. Après, pour les épreuves du grand oral, la philo, tout ça.
Moi, je suis pour, parce que déjà, de base, vu qu'il y avait des profs absents, plein d'élèves absents à cause du Covid, on ne pouvait pas finir le programme à temps. Je pense pas qu'on aurait fini les 7 chapitres avant le bac déjà.
Ça nous laisse plus de temps justement pour réviser et se renforcer pour les épreuves.
C'est un peu compliqué pour faire les cours et tout. Donc je trouve que c'est mieux, on a plus de temps pour bien revoir sur les sujets sur lesquels on peut tomber.
Là, on va avoir toutes les épreuves en même temps, ça va être assez galère, ça va être une grosse charge de travail. Et voilà, mais bon, on peut rien y faire maintenant, c'est fait, c'est fait.
C'est fait, c'est fait. Manon Lombard-Brunel de France Bleu Haute-Normandie. Depuis des semaines, les élèves en ont pris l'habitude, dès qu'ils sont cas contact, ils doivent pratiquer des autotests. Mais de l'autre côté de la Manche, les adolescents britanniques font les petits malins. Ils échangent des tutos pour trafiquer les tests. Et donc, sécher les cours, Magali Homo.
À la sortie du lycée, entre amis, on regarde ces tutos d'un tout nouveau genre.
Ça tourne sur TikTok. Il y a des petits tips pour être positif en autotest.
Ça marche avec un peu tout, de la bière, du jus d'orange, du ketchup, de la compote et bien sûr du Coca-Cola.
Au réfrigérateur ou du Coca ou du citron, je sais pas, des trucs comme ça.
Chacun sa technique.
C'était mettre du Coca dans le nez et après faire l'autotest.
D'autres vont encore plus loin.
On le frottait un peu partout et après ça dépend de où, mais... Dans le métro, déjà, il y a plein de bactéries, donc c'est sûr que si on le frotte sur des barres de métro...
Tous ces jeunes affirment ne jamais avoir essayé.
Moi, ça m'est venu à l'esprit, mais le faire, non ?
On a une sacrée pression avec le bac, donc on préfère rester studieux, et je trouve que c'est complètement débile.
Mais alors, comment ça marche ? Lionel Baron, le président du syndicat des biologistes médicaux.
On a déjà remarqué que c'était lié à certains liquides acides. Après, c'est peut-être pas avec tous les fournisseurs et pour tous les tests, mais on a ce genre d'interférence. Normalement, on n'est pas censé mettre ce genre de produits sur les tests.
Si les jeunes font cela pour rire, cette découverte a priori innocente fait aussi le jeu des antivax. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes en déduisent que les tests sont truqués.
Et vous pouvez retrouver tout un dossier sur franceinter.fr. Ils ressemblent à un steak haché, ils en ont la texture, la couleur, ils sont vendus au rayon boucherie, mais ils n'ont rien d'animal. Certains magasins Carrefour s'adaptent à l'appétit grandissant des véganes et autres flexitariens en proposant des palets végétaux au milieu de la viande. 16% des consommateurs ont déjà franchi le pas l'an dernier. Mais quel est ce marché ? Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Le marché du végétal est encore balbutiant, mais plein de promesses.
105 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, l'équivalent du marché sans gluten. La tendance est là. Il y a bien sûr les véganes et les végétariens qui dénoncent l'impact environnemental et la souffrance animale. Et puis il y a les flexitariens qui mangent moins de viande mais de meilleure qualité et qui sont donc à la recherche d'alternatives. Pour l'heure, le leader sur ce marché est le groupe Herta, mais de nombreuses start-up françaises se sont lancées. Apivore, Umiami, La Vie. Le curseur, c'est le goût. Les sensations sont là. Texture, gras, grillé. Lardon de la marque La Vie, où ses produits estampillés Le Boucher végétarien, à base de pois jaunes, de soja et d'aromates.
Et justement, Agnès, l'offre de Carrefour s'adapte à ses nouvelles habitudes alimentaires.
Oui, dans une famille, il n'est pas rare désormais que les parents soient flexitariens. La petite dernière adore la viande crue, mais le fils aîné est devenu vegan. D'où l'idée de proposer au rayon boucherie, à la pesée, des produits végétaux. Vous pourrez ainsi acheter un steak tartare, mais aussi un palais végétal ou du haché végétal pour faire des bolognaises pour tout le monde. Prix au kilo autour de 14 euros. Testé dans 4 magasins durant 2 mois, Carrefour verra si l'offre répond à une demande ou si décidément, consommateurs véganes et carnivores préfèrent faire rayon à part.
Agnès Soubiran, avis de grosses tempêtes dans le nord-est des États-Unis, des milliers de vols sont annulés aujourd'hui. On attend un gros coup de vent et de fortes chutes de neige en Nouvelle-Angleterre, à New York, Boston. 30 cm de neige sur la grosse pomme, l'état d'urgence a été déclaré.
À 8h13 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Les champions olympiques de handball ne seront pas champions d'Europe.
Et non, les Français battus hier en demi-finale par la Suède pour un petit but, 34-33. Pourtant, les Bleus avaient bien débuté la partie, mais les Suédois sont revenus. Dommage, rageant même, mais ainsi va le sport, résume l'emblématique Nicolas Karabatic.
On était dans le match, on a très bien commencé en défense, en attaque, on a fait exactement ce qu'on voulait faire. Et les trois buts qu'on prend, un but vide, un joueur moins qu'on gère pas bien, et le dernier but à la fin de la mi-temps, là, ce sont les 3-4 buts après lesquels on court pendant toute la deuxième. Et c'est rageant parce qu'en attaque, on a trouvé des solutions, on a bien joué, on s'est battu jusqu'au bout encore une fois, on n'a pas baissé les bras. Et c'était un grand match. C'est sûr qu'on est très déçus, pour nos supporters aussi et pour tous les Français qui nous regardaient. Mais en même temps, on est fiers de notre prestation parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et que ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà.
Alors demain, les Français retrouveront le Danemark pour aller chercher une médaille de bronze et la finale opposera la Suède à l'Espagne.
Le Danemark, ils avaient battu d'un petit point.
Tout à fait.
Tout pareil. Le tennis australien retient son souffle.
Parce que cela fait quand même 44 ans qu'une représentante du pays n'a pas remporté l'Open d'Australie. Or, dans un peu moins de 2 heures maintenant, Ashleigh Barty sera sur les courts pour disputer la finale dames. Alors vous l'aurez peut-être deviné, Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale, elle est australienne. Elle est face à elle. Par contre, il y a quand même une invitée surprise. C'est l'américaine Danielle Collins, 30e joueuse mondiale. Tennis puissant, caractère bien trempé. Elle va disputer sa première finale en Grand Chelem, sans complexe, Fabrice Abgral.
Danielle Collins est née il y a 28 ans à Saint-Pétersbourg, pas en Russie, mais en Floride. C'est son père qui lui met une raquette dans les mains. La petite Danielle y prend goût, elle est douée et devient rapidement un espoir du tennis américain. Mais le papa est prudent, il incite sa fille à privilégier ses études universitaires pour s'assurer un avenir quoi qu'il arrive. À 20 ans, alors qu'elle est encore étudiante, Danielle Collins participe en 2014 à son premier US Open. Elle est éliminée au premier tour mais elle refuse d'empocher l'argent qui lui était promis pour ne pas devenir de facto professionnelle et du coup perdre sa bourse d'études. Elle décroche finalement à l'université un master en commerce. Dès lors, place au tennis. Le public la découvre 5 ans plus tard, en 2019, quand elle se hisse en demi-finale de l'Open d'Australie. Mais cette demi-finale sera sans lendemain. En 2020, Danielle Collins se plaint d'être victime de maux de ventre et de vomissements. Les médecins lui diagnostiquent une endométriose. Elle se fait opérer et c'est alors une libération. Elle reprend le fil de sa carrière, gagne l'année dernière ses 2 premiers tournois. La voilà maintenant en finale à Melbourne, avec la certitude de pouvoir remporter le titre.
Danielle Collins face à Ashley Barty en finale dame, donc à partir de 9h30. Le foot et les 8e de finale de Coupe de France ce week-end, ça passe pour Nantes, vainqueur de Brest 2-0. Suite aujourd'hui avec 4 rencontres, dont le derby ce soir entre Marseille et Montpellier. Et les 8e de la Coupe de France féminine également au programme, avec un choc entre les Lyonnaises et les Parisiennes. L'Olympique Lyonnais donc face au PSG à 14h cet après-midi.
Merci Laetitia.
Laetitia Bernard, dans le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce samedi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et ce sera couvert au nord, Jean-Michel Golinski.
Des températures confortables en fin de nuit entre la Manche, la Loire et les frontières du Benelux, sous un ciel souvent maussade. Il fait 10 degrés de Calais à Ouessant, 7 sur la Vendée, la région parisienne et la Champagne. Sur ces 2/3 nord, l'ambiance de la journée va rester douce et humide. Du sud-ouest aux régions du nord-est, les gelées sont fréquentes, vers moins 3 degrés sur le Pays Basque et dans les vallées d'Auvergne, avec des brouillards souvent givrants. En journée, des plus faibles vont gagner vers le Poitou-Charente, le centre de la frontière allemande, et au sud de la Garonne, la grisaille pourra persister. Des Alpes au pourtour méditerranéen, ce sera du plein soleil toute la journée, avec ce matin des gelées vers moins 1 degré en Rhône-Alpes. Cet après-midi, il est prévu 12 à Lille, Brest, Paris et Marseille, 9 le long de la Loire, 5 à Lyon, 7 à Bordeaux et Strasbourg, 16 à Toulon et 19 à Perpignan.
Jean-Michel Golinski, Météo France.